On va commencer par poser une question hyper simple. En fait, on a décidé de parler des assistants personnels aujourd'hui. Et la vraie question, c'est qui sont les assistants personnels ? Est-ce que Siri peut être considéré comme un ou une, d'ailleurs, assistant, assistante personnelle ? Ou est-ce que mon smartphone dans son entier, hein, le téléphone que j'ai dans la main, peut être considéré comme un assistant personnel ? À moins que ce soit mon application Uber, hein, peut-être que chaque appli peut être considérée comme une assistante personnelle. Et du coup, nous, on a pris un petit contre-pied là-dessus. Je pense qu'avec Anthony, on se rejoint politiquement sur ces questions-là. Pour nous, les vrais assistants, il faut creuser un peu plus pour les trouver, en fait.
Ouais, on n'arrête pas de parler de l'embauche. On se réjouit, on fantasme que le secteur du numérique crée beaucoup d'emplois, que ça va résoudre des problèmes de chômage ou relancer l'industrie ou que sais-je. Mais peut-être que c'est plus compliqué. Par exemple, dans la Silicon Valley, alors qui est un peu l'endroit clé d'où partent toutes les apps qu'on critique à foison dans cette émission, on se rend compte, si on regarde en détail, que beaucoup de travailleurs, en fait, ne travaillent pas dans le secteur tech, ou en tout cas pas directement. Par exemple, chez Facebook, on a 7000 employés qui sont chargés d'identifier du contenu gênant, texte, image ou autre, je vous passe les détails, sans compter évidemment toute la task force nécessaire à l'entretien des locaux, du ménage, d'arroser les plantes ou que sais-je. Et donc, la plupart de ces employés du secteur technologique pourraient tout aussi bien, et ils seraient même mieux payés, chez Walmart, le Carrefour américain. C'est ce que dit en tout cas un article récent paru dans Quartz.com.
Ouais, donc au final, on nous en met une pleine tête sur le fait que la tech emploie plein de gens et que c'est absolument formidable et que ça constitue un nouveau modèle. Alors qu'en fait, ces gens sont, alors je dirais pas des esclaves, ça va un peu loin, mais il y a très clairement un usage ici du travailleur, du travailleur de la travailleuse qui est ultra compliqué.
Donc on ferait mieux de s'inquiéter un peu de la French Tech.
Exactement.
Par exemple.
Et puis après, il y a cette question. Alors du coup, voilà, ça nous fait penser tous les deux qu'il faut toujours se rappeler que derrière les apps, il y a des gens, en fait. Alors quand on dit derrière les apps, hein, c'est pas uniquement ce qu'on appelle le back-office, hein, c'est-à-dire ce qui va permettre aussi de tourner, mais c'est enfin toutes ces personnes qui déploient leur labeur, leur force de travail et qui forment la base, au fond, de cette économie de service. Et c'est bien eux et elles, et pas tous ces gens qu'on starise et qu'on héroïse dans les représentations très, très fantasmées de la Silicon Valley.
Oui, le sous-titre de cette émission, d'ailleurs, tu ne l'as pas donné, Pia, c'est l'ère de Jarvis. Et donc, pour commencer, on peut se demander si ces assistants personnels, les applications qui vont avec, autour des objets connectés, ne créent pas finalement des nouvelles formes de servitude. Alors, nouvelles entre guillemets, qu'en est-il en fait dans cette ère du on-demand, où j'appuie sur un bouton et je commande, comme Xavier, une pizza ou que sais-je? Qu'en est-il du labeur invisible derrière ces applications? Autrement dit, c'est une question que je te pose, Pia. Comment le numérique, ou est-ce que le numérique, reproduit des formes de servitude qui lui précédaient ?
C'est très clairement un truc qui m'obsède pas mal. Je vais faire un peu d'autopromo, j'espère que vous me pardonnerez. Il y a un article que j'ai écrit il y a un petit moment maintenant, qui met un peu de temps à sortir, parce que ça, c'est les affres de la publication universitaire. Ça va paraître... Pardon ?
C'est plus rapide à la radio.
Ouais, exactement, il y a une instantanéité qu'on aime bien là. Et donc c'est un article qui va apparaître dans la revue Médiation et Information, le numéro 43 pour ceux et celles que ça intéresse. Et donc j'y parle de toutes les applications de livraison, enfin les applications de livraison externalisées de nourriture. J'ai absolument rien contre les restaurants qui embauchent leurs propres livreurs-livreuses, mais toutes ces applis que sont Foodora, Deliveroo, Uber Eats sont hyper problématiques. Et j'avais eu un déclic en fait en lisant un article de la journaliste Lauren Smiley, qu'elle avait publié en 2015 sur Medium, plateforme que Anthony trouve problématique, on fera peut-être une émission un jour là-dessus. Et Smiley explique en fait comment il y a un nouveau modèle qui émerge dans la Silicon Valley, qui consiste en fait pour des gens à travailler comme des chiens, et à rentrer chez eux très tard le soir, et être trop épuisé pour faire rien d'autre qu'en fait commander de la nourriture, commander ses contenus culturels, commander son pressing, et au final se structure toute une expérience de la ville qui n'est plus du tout j'ai mes services en bas de chez moi, je descends, je vais manger au resto ou que sais-je, mais je reçois tout chez moi. Et du coup, elle appelle cette génération de gens qui reçoivent tout sur commande, les shut-in en anglais, donc en gros, moi j'ai traduit ça par les cloîtrés, et c'est vraiment l'idée qu'en fait vous avez toute une série de petits majordomes qui se dépêchent autour de votre baraque, avec leur vélo, avec leur voiture, leur taxi, de vous livrer ce dont vous avez besoin. Et elle évoque même le fait que ce paradigme a une espèce d'horizon assez angoissant qui consiste en fait dans un super service qui les rassemblerait tous. Alors ça existe, ça s'appelle Alfred, ça a été renommé récemment Hello Alfred. Donc en fait, quand même le fait de gérer vos commandes Amazon, gérer votre Uber Eats et ainsi de suite devient trop compliqué, vous embauchez un majordome à domicile qui va coordonner tous les autres majordomes pour que quand vous arriviez, tout soit fait. Ce qui m'amène moi à conclure, et je pense qu'Anthony, tu développeras, qu'on est face à une nouvelle classe de majordomes, mais qui est largement invisibilisée parce que c'est représenté sous les codes très très cool, des codes graphiques très séduisants du 21e siècle, des millénials et tout ça. Et ça invisibilise complètement le fait que ces gens sont rien de plus en fait qu'une classe de domestiques recréée après la Révolution française, après la disparition apparente des domestiques. Bon, après, il faudrait le dater.
Donc depuis ton article qui tarde à paraître, qui paraîtra un jour, j'espère, beaucoup de journaux grand public se sont penchés sur le sujet, et notamment pour donner de la visibilité à ces tâcherons, je ne sais pas comment le dire autrement. Le Monde, en mai 2017, donc très récemment, écrit un article intitulé « Pédale ou crève », donc ils ne sont pas en marche, ils sont à vélo, dans la peau d'un livreur Foodora, qui met en avant évidemment tout ce qu'on sait ou ce qu'on sait pas d'ailleurs, hein, sinon il n'y a peut-être pas autant de monde dessus, on peut se poser la question. Les concurrences entre coursiers, la sécurité, la précarité, évidemment des non-contrats de travail, et donc ce pauvre journaliste qui s'est retrouvé dans la peau d'un livreur pour faire ce reportage.
J'ai pas abandonné l'idée de le faire d'ailleurs, parce que les questions qu'on réécrive sur le sujet, je crois qu'il va falloir que je m'y colle et que je passe la journée sur un vélo Deliveroo. Mais enfin, on n'est pas là uniquement pour parler de Deliveroo. Moi, Anthony, j'aimerais bien que tu
journalisme total et Gonzo.
Exactement, c'est l'idée, c'est le concept, c'est design Gonzo, on a pensé, dis-toi.
Pour bien connaître ce qu'on critique, il faut peut-être le tester en profondeur.
C'est l'idée. Mais alors, un truc que tu n'as pas testé justement, mais dont tu vas nous parler, je crois, c'est Uber et par extension, les conditions de travail. Moi, j'ai désinstallé l'application depuis longtemps.
Mais tu t'en es servi.
Malheureusement, ouais. Non, maintenant, je fais un truc hyper lâche, c'est que je monte dans des taxis Uber quand des gens ont l'appli. Donc, j'en profite, c'est juste pas moi qui paye le service.
J'ai fait ça aussi, je l'ai installé et je l'ai désinstallé parce que j'avais la flemme de rentrer la carte de crédit. Heureusement, Apple Pay n'étant pas supporté par ma banque, ça, j'ai pu m'en sortir comme ça. Uber, je voulais faire un petit focus sur des polémiques récentes ou pas. Donc, voilà, un petit point sur cette entreprise. Donc, je sais pas si on voudra se transformer en chauffeur Uber à la suite de Deliveroo. Mais alors, c'est en 2015, l'application Uber, donc très populaire, a failli être complètement supprimée, enfin virée de l'Apple Store par Apple, tout simplement parce qu'elle était accusée, à juste titre, de traquer les utilisateurs alors même qu'ils avaient désinstallé l'application. Donc ça enfreignait complètement les règles de l'Apple Store. Ensuite, un article de 2017 sur Internet Actu qui mettait en avant des pratiques très louches, des dark patterns, l'algorithme d'Uber, en tout cas un sous-algorithme, permettait d'échapper à la loi, à la police, afin de protéger les chauffeurs. Et donc, il y avait, le code faisait loi par-delà la réglementation des différents gouvernements. Uber devenait un État dans l'État.
Elle craint tellement cette entreprise, en fait. Dès quand on commence à chercher des articles sur Uber, c'est hallucinant.
Oui, attends, il y a encore pire, en fait. J'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est que...
Attendez, excusez-moi, mais vous avez jamais vu comment ça marchait les taxis G7, vous, hein?
Ah si, bien sûr, mais attends, dans le pire, tu as des milliers de degrés. Hein. Moi, j'ai passé 10 ans à Paris, je connais les taxis G7, mais bon, Uber, c'est une autre histoire.
Je pense pas que nos algorithmes, ils étaient aussi loin, en tout cas sur le champ du numérique. Après, on peut parler d'autre chose, mais... En tout cas, alors pareil, un article très récent, paru toujours sur Internet Actu, qui décidément aime bien critiquer Uber, qui analyse cette fois non pas l'application du côté de l'usager qui commande son taxi, mais du côté des chauffeurs qui triment beaucoup pour gagner peu d'argent. Et donc, l'application côté chauffeur, donc une autre application, met en place un système d'encouragement, alors qui prend la forme de mini-jeux, ce qu'on appelle la gamification, mais qui en fait incite les chauffeurs à travailler toujours plus avec des systèmes de récompense ou d'encouragement sous un ton léger du genre « vous êtes à mi-chemin du bonus, félicitations !» Et en fait tout ça pour les faire travailler toujours plus, pas dans leur propre intérêt, mais dans les moments ou les zones où Uber a intérêt à gagner le plus d'argent. Donc, autrement dit, est intégré dans l'algorithme et surtout dans l'interface elle-même, dans le design de l'interface, une conception comportementale de l'environnement de travail. Alors là, on parle d'Uber, mais c'est des choses qui sont en train d'arriver et qui sont même déjà présentes dans bien d'autres domaines d'activité humaine.
T'as un exemple ?
Bah alors bon, déjà vous aurez compris que Uber, avec tout ça, on pourrait dire que c'est comparable à un cartel de drogue. Enfin, on n'est pas très loin hein, quand on enfreint les lois, on masque tout, etc.
Il y a une partie qui est importante aussi là-dessus, sur cet aspect double face. On le retrouve complètement dans le codage des applis et la manière dont les applis sont structurées en termes de consultation et d'expérience utilisateur. Il y a souvent deux volets de l'application, c'est-à-dire que vous avez une expérience de l'application quand vous êtes entre guillemets simple usager usagère, et puis l'application a une sorte d'autre face. Alors, c'est un peu le cas aussi pour Airbnb. Vous voyez des choses que les usagers et les usagères ne voient pas et qui sont donc faites uniquement pour vous, comme est en train de le décrire Anthony,
oui,
avec le principe de la gamification.
Ton exemple est bon. Effectivement, l'application pivote littéralement. L'écran se retourne et donc on passe de loueur d'appartement, on fait des magazines, des super photos, à tâcheron de son propre appartement. Il faut mettre des serviettes, ranger le lit, faire la vaisselle, etc. pour satisfaire les autres. Donc c'est intéressant parce que là, c'est la même application où une même personne peut être placée d'un côté ou de l'autre.
Exactement, et c'est toujours le même discours en fait, c'est qu'on vous promet toujours que vous serez incroyablement heureux, que vous soyez usager. Enfin, quand on regarde par exemple les applications, enfin, comment Deliveroo communique pour les futurs coursiers, c'est assez hallucinant. Il y a vraiment ce discours du bonheur total qui est le même, soi-disant, pour l'usager ou celui qui pédale. Et on se rend compte quand même que ces applications de service, alors après là on déborde un tout petit peu des applications de service, on est vraiment aussi dans les réseaux sociaux, ou ce que moi j'appelle les néo-majordomes, proposent des lignes de partage politiques qui sont vraiment difficiles. J'ai un autre exemple à GAFAMland. Sur Facebook, il y a Didi Delgado qui a pas longtemps, encore sur Medium, produit une critique à l'endroit de Mark Zuckerberg, qui apparemment est les personnes afro-descendantes. Puisque les activistes afro-descendants sont régulièrement censurés sur Facebook, très rapidement et beaucoup plus rapidement que les suprématistes blancs, ils sont en fait leurs comptes sont bloqués, leurs propos sont censurés. Et Didi Delgado propose une lecture assez intéressante en disant qu'en fait les comptes ne sont pas bloqués complètement, c'est-à-dire qu'un activiste noir va par exemple pouvoir continuer de voir les comptes de ses copains, va peut-être pouvoir envoyer des messages privés, mais par contre il ne va pas être capable d'émettre du contenu. Et ce que dit Delgado, qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait cette manière en fait d'être lecteur mais pas émetteur, ça reproduit complètement des logiques de lois esclavagistes très anciennes, puisque les esclaves noirs dans les plantations avaient le droit d'apprendre à lire mais pas le droit d'écrire. Et donc elle dit ici qu'à l'endroit en fait d'une application et dans ses algorithmes et dans la gestion des algorithmes se reproduisent quelque chose de logique raciste. Donc on voit ici qu'à chaque fois il y a des lignes de pouvoir. Alors ça peut être des logiques classistes avec les majordomes ou des lignes racistes avec les activistes noirs sur Facebook. Mais il y a là comme ça des logiques assez anciennes qui ressurgissent quand bien même on nous promet de l'innovation et un monde meilleur avec les technologies du numérique.
Donc si je commande mon Uber depuis Facebook, en gros voilà, si je te suis Pierre, on est soit esclave soit majordome dans toute cette histoire.
C'est un peu notre horizon et il n'y a pas longtemps d'ailleurs cette comparaison avec la question des majordomes elle est assez présente. Il y avait une émission de France Culture donc il n'y a pas longtemps qui faisait toute une réflexion sur les majordomes au cinéma. Donc on en connaît de nombreux, il y a Alfred dans toute la série des Batman. Xavier Delaporte lui citait un film de James Ivory avec Anthony Hopkins et cette citation que je trouve absolument merveilleuse: quand un domestique est dans la pièce est encore plus vide. Donc on est en plein dans le paradigme d'invisibilité de l'aide et du service, alors qui existe depuis toujours. Hein. Quand on lit Huysmans, on a déjà l'idée des moquettes qu'on installe pour pas entendre les petits pas des majordomes qui passent dans les couloirs. Mais on retrouve ça aujourd'hui avec les applications qui travaillent à rendre invisible tout ce labeur-là.